Émission spéciale Nuit de la lecture réalisée par les élèves de 5e 1 et 5e 2.
Et voici maintenant l'histoire de Jeanne d'Arc écrite par Jules Michelet en 1853.
J'entrais un jour chez un homme qui a beaucoup vécu, beaucoup fait, beaucoup souffert. Il tenait à la main un livre qu'il venait de fermer et semblait plongé dans un rêve. Je vis non sans surprise que ses yeux étaient pleins de larmes, enfin revenant à lui-même.
Elle est donc morte ?
Qui ? La pauvre Jeanne d'Arc.
Telle est sa force, cette histoire, telle sa tyrannie sur le cœur, sa puissance pour arracher les larmes. Bien dit ou mal conté, que le lecteur soit jeune ou vieux, qu'il soit tant qu'il voudra, affirmé par l'expérience, endurci par la vie, elle le fera pleurer. Homme, n'en rougissez pas et ne vous cachez pas d'être homme. Ici la cause est belle. Nul deuil récent, nul événement personnel n'a le droit d'émouvoir davantage un bon et digne cœur.
La vérité, la foi et la patrie ont eu leur martyr. Et en foule, les héros eurent leur dévouement, les saints leur passion, le monde à admirer et l'Église à prier. Ici, autre chose. Nulle canonisation, ni culte, ni autel. On n'a pas prié, mais on pleure.
La Lorraine des Vosges, cette partie élevée de la France, d'où descendent de tous les côtés des fleuves vers toutes les mers, était couverte de forêts vastes. Dans les clairières de ces forêts s'élevaient les vénérables abbayes de Luxeuil et Remiremont. Celles-ci, comme on sait, gouvernées par une abbesse qui était une princesse de Saint-Empire, qui avait ses grands officiers, toute une cour féodale qui faisait porter par son sénéchal l'épée nue devant elle.
Cette royauté de femmes avait eu pour vassal et pendant longtemps le duc de Lorraine. Ce fut justement entre la Lorraine des Vosges et celle des Plaines, entre la Lorraine et la Champagne, que naquit à Don Rémy la belle et brave fille qui devait porter si bien l'épée de la France.
Son village était à deux pas des grandes forêts des Vosges. De la porte de la maison de son père, elle voyait le vieux bois des chênes. Les fées hantaient ce bois. Elles aimaient surtout une certaine fontaine près d'un grand être qu'on nommait l'arbre des fées.
Ces anciennes dames et maîtresses des forêts ne pouvaient plus, disait-on, se rassembler à la fontaine. Elles en avaient été exclues pour leurs péchés. Cependant, l'Église se défiait toujours des vieilles divinités locales. Le curé, pour les chasser, allait chaque année dire une messe à la fontaine. Jeanne naquit parmi ces légendes, dans ces rêveries populaires.
Mais le pays offrait à côté de toute autre poésie, celle-ci, sauvage, atroce, trop réelle hélas. La poésie de la guerre. La guerre, ce mot, seul dit toutes les émotions.
L'histoire de Jeanne est elle, une enfant de 12 ans, une toute jeune fille confondant la voix de son cœur avec la voix du ciel, conçoit l'idée étrange, improbable, absurde, si l'on veut, d'exécuter la chose que les hommes ne peuvent plus faire, de sauver son pays. Elle couve cette idée pendant 6 ans sans la confier à personne. Elle n'en dit rien, même à sa mère, rien à nul confesseur.
Sans nul appui de prêtre ou de parents, elle marche tout ce temps avec Dieu dans la solitude de son grand dessein. Elle attend qu'elle ait 18 ans, elle l'exécute malgré les siens et malgré tout le monde.
Elle traverse la France, ravagée et déserte, les routes infestées de brigands, elle s'impose dans la cour de Charles VII, se jette dans la guerre et dans les camps qu'elle n'a jamais vus. Dans les combats, rien ne l'étonne. Elle plonge intrépide au milieu des épées.
Blessée toujours, découragée jamais, elle rassure les vieux soldats, entraîne tout le peuple qui devient soldat avec elle. Et personne n'ose plus avoir peur de rien. Tout est sauvé. La pauvre fille, de sa chair pure et sainte, de ce corps délice et tendre, a émoussé le fer, brisé l'épée ennemie couverte de son sein, le sein de la France.
Après ces extraits de l'œuvre de Jules Michelet, c'est à notre manière que la fin de l'histoire vous sera dévoilée.
Donc, en pleine guerre de 100 ans, les voix l'engageaient à libérer Orléans des mains des envahisseurs anglais et à rétablir Charles, dauphin légitime, sur le trône de France. Elle se dirige alors vers Vaucouleurs.
En 1429, ayant convaincu le capitaine Robert de Brodicourt et son armée de la conduire jusqu'au dauphin, elle se rend à Chinon, vêtue de costumes d'homme. Son plan de délivrance d'Orléans est accepté par le futur Charles VII.
Brandissant sa bannière portant l'inscription « Jésus-Maria », Elle dirige alors une petite armée qui parvient à libérer la ville. Courageuse et héroïque, elle est surnommée la Pucelle d'Orléans, après avoir gagné de nombreuses batailles, dont celle de Patay, contre les Anglais et les Bourguignons, leurs alliés.
Elle conduit le dauphin Charles à Reims, où elle le fait sacrer roi de France, le 17 juillet 1429. Un an plus tard, elle tente de reprendre Compiègne, mais elle est capturée à Paris, puis est vendue aux Anglais par les Bourguignons.
Elle est emmenée au tribunal d'inquisition de Rouen, présidé par l'évêque de Beauvais Pierre Cochon, allié des Anglais. Jugée, elle est ensuite brûlée vive à l'âge de 19 ans.
Jeanne d'Arc est réhabilitée 25 ans plus tard, à la demande de Charles VII, béatifiée, puis canonisée en 1920 par le pape Benoît XV.
Émission spéciale Nuit de la lecture, réalisée par les élèves de 5e 1 et 5e 2.